Ville PM. L'international. Loïc Tassé.
We'd have a war. I'm going to be signing a national emergency. We're talking about an invasion of our country with all types of criminals and gangs.
La déclaration donc de l'état d'urgence, l'urgence nationale aux États-Unis par Donald Trump. Parce que, dit-il, le pays fait face à une invasion venant du Sud. Loïc Tassé, chroniqueur pour l'International. Bonjour Loïc.
Bonjour Bernard.
C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Il n'a pas été capable d'avoir son argent en passant par le Congrès, fait que là, il prend un autre chemin.
Oui.
Et on n'est même pas sûr que c'est légal.
Non, effectivement. Et en fait, il demandait, si tu te souviens bien, 5,5 milliards de dollars. Dans le dernier budget, celui qu'il a fini par signer, bon, et puis on sait que le gouvernement va ouvrir, donc il ne sera pas bloqué, très bien, il y avait 1,5 milliard de dollars qui étaient prévus pour le mur. Sais-tu combien d'argent il va aller chercher? 8 milliards de dollars.
C'est ce qu'il veut aller chercher.
C'est ce qu'il va aller chercher si
c'est déclaré constitutionnel.
Si c'est déclaré constitutionnel, exactement. Et donc, alors, au total, c'est presque 10 milliards de dollars pour son mur. L'argent va provenir principalement des budgets de la Sécurité nationale, du département du Trésor dans le fonds pour la lutte contre la drogue, du département de la Défense. Trump a dit que c'était de l'argent discrétionnaire, mais qui va même être pris à même le programme d'intervention contre les drogues et le budget de la construction militaire en général. Alors ça, c'est ce qu'il a déclaré. Et on écoutait, c'était surréel. D'abord, c'était complètement décousu.
Oui, hein, il avait pas l'air préparé.
Pas du tout. Il passait du coq à l'âne constamment. Alors, tu sais, tu regardes ça, puis tu dis, mais est-ce qu'il y a un journaliste qui a dit, mais vous rendez compte, ça va aller. Oh oui, ça va aller en cours. On va perdre en première instance, on va perdre en deuxième instance, mais à la Cour suprême, on va gagner. Tu dis ben, bravo, monsieur le président, pour vous tenir éloigné, n'est-ce pas, de la justice et ne pas commenter ce qui se passe, ce qui est devant les tribunaux.
L'indépendance
bravo pour l'indépendance judiciaire.
Ouais, non, effectivement.
Et, bon, écoute. Puis, alors, tu te souviens, c'est le Mexique qui devait payer pour ça, n'est-ce pas?
Ah, ben oui, c'est vrai.
Mais oui. Alors,
pendant la campagne, il avait dit c'est les Mexicans qui vont payer.
Alors, on
ça.
Lui a dit, il avait prévu que ça. Alors, le Mexique paye. Et le Canada aussi, à travers le nouvel ALENA.
C'est ce qu'il dit ou...
Oui, c'est ce qu'il a dit.
Ah, c'est ce qu'il a dit.
C'est ce qu'il a dit. Ah. Et puis bon, il a sorti plein de statistiques en disant, tu sais, tous les mensonges habituels sur les points d'entrée de la drogue, sur la violence des immigrants. On lui a fait remarquer que ces statistiques, ce qu'il donnait comme statistiques, contredisaient complètement toutes les statistiques officielles du gouvernement. Il a dit, mais j'ai mes propres sources statistiques. Mais qui vous donne ça? Le Homeland Security. Monsieur le Président, est-ce que vous partageriez avec nous, vos... Non. Mais Monsieur le Président, est-ce que vous êtes en train de dire que les sources gouvernementales se trompent? Ah oui, mais moi, j'ai d'autres sources. Tu dis, écoute. Enfin, bref, écoute, j'ai quand même fait un petit bilan, j'ai fait une petite recherche là-dessus, tu sais.
J'ai regardé
combien de fois on s'était servi de cette loi. C'est une loi qui date de 1976, et en fait, elle date depuis bien avant, mais si tu veux, dans sa nouvelle mouture, elle date depuis 1976. Et en fait, on s'est servi de cette loi 58 fois au total depuis 1976, ce qui est beaucoup. Et on s'en sert pour des événements en général de politique étrangère, tu sais, des guerres imminentes, des mesures de sanctions, par exemple contre l'Iran, des menaces subites, genre les cyberattaques dans le système électoral, les épidémies, des crises économiques graves. Ça, c'était du temps de Nixon, donc avant la nouvelle loi. Mais Nixon s'en est servi au moment de la crise pétrolière, au moment de la grève du service postal en 1970. Le seul problème, c'est que comme tout le monde l'a remarqué, il semble pas y avoir d'urgence, parce que la situation est perdue depuis 20 ans. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'aucun président précédent n'a déclaré l'état d'urgence là-dessus? Et lui-même, pourquoi est-ce qu'il n'a pas déclaré l'état d'urgence dès qu'il est arrivé au pouvoir? Il y avait une réponse à cette dernière question-là.
Ça pourrait être un argument que les opposants au décret pourrait servir au juge. Il pourrait dire s'il y avait vraiment eu urgence, il aurait imposé l'état d'urgence dès le départ,
mais
dès son arrivée
pensé,
à la Maison-Blanche.
Il y avait pensé, Trump. Ouais. Il a dit, c'est parce que j'étais nouveau au poste. Et que le président de la Chambre à l'époque, M. Ryan, tu te souviens, ne l'a pas demandé. C'est sa faute, en fait. Ouais, c'est pas ma faute.
Toujours la faute des autres.
Oui, oui. Okay, alors, je t'explique comment ça fonctionnait. Donc, on va regarder, on va suivre tout ça, évidemment. Mais,
Oui, absolument, parce que je veux te parler d'Haïti, là.
Oui.
Parce que le président Jovenel Moïse finit par sortir de sa torpeur et de son mutisme, parce que c'est ce que demandaient les manifestants. Mais... Il demandait qu'ils sortent et qu'ils s'adressent à eux. Il a fini par le faire, mais ça a absolument pas calmé la situation.
Pas du tout, au contraire, parce qu'on voulait des mesures concrètes. Tu sais, il a promis beaucoup de choses depuis... au moment de son arrivée au pouvoir, il n'a rien livré. Il n'y avait aucune mesure concrète dans son discours. Et en fait, il se drapait dans son rôle de président. Je suis le président. Comment osez-vous, en fait?
Un argument d'autorité, oui, c'est ça.
Alors, les gens, tout simplement, l'ont écouté. Et puis, on dit, bon, ben, très bien, monsieur. On vous demande votre démission encore plus qu'avant.
Les manifestations continuent.
Les manifestations redoublent. Le pays est de plus en plus paralysé. Et le fond du problème, tout de suite, on a parlé avec plusieurs personnes, on en a parlé ensemble, c'est que la richesse du pays est accaparée vraiment par une minuscule élite économique. Et puis récemment, la dégradation des taux de change et puis la hausse de l'inflation qui s'en est suivie a été finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Les gens étaient déjà très pauvres. Oui. Et avec l'augmentation des coûts, ben évidemment, comme nous le disait ce médecin, cette femme médecin à qui on a parlé hier, les gens ont faim. Les gens ont faim là-bas, là. Oui. En Haïti, écoute, c'était... Je ne sais pas si tu as entendu cette entrevue.
Oui, j'ai entendu, c'était très bien.
C'était stupéfiant parce que, dans le fond, elle disait, les gens n'ont plus rien à perdre maintenant.
Oui,
là.
Et vous disiez, ventre affamé n'a pas d'oreille.
Oui, voilà,
effectivement. Exactement. On en est rendu là.
Je veux juste passer à un autre sujet, là, parce que les négociations entre les États-Unis et la Chine vont quand même bien. Résume-moi ça, là, en 30 secondes, là.
Ça va très bien. Il y a plusieurs points d'entente. Donald Trump en a parlé aussi ce matin. Il a dit qu'il allait rencontrer Xi Jinping la semaine prochaine, qu'il restait encore des choses à négocier, mais que les ultimes négociations, et c'est normal, auraient lieu entre les deux présidents. Ils ont signé les deux parties, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, un mémorandum.
Alors, ça c'est important, c'est parce que le mémorandum, c'est comme une espèce d'entente de principe.
C'est
là.
Une entente de principe, exactement. Donc, on regarde tout ce qui se passe, ça paraît très bien, mais c'est pas fini. Je te signale qu'il y a encore l'OMC, il y a le suivi aussi qu'il faut faire de tout ça. Mais si tu veux, ce sont d'excellentes nouvelles. Et Trump a dit, attention, je pourrais aussi reporter les sanctions, c'est-à-dire qu'elles ne prendront pas effet le 1er mars. Si je vois que les négociations vont bien, s'il nous reste peu de choses à conclure, je pourrais reporter à une date ultérieure la mise en application des sanctions.
Très bien. Loïc Tansy, je te souhaite un bon week-end.
À toi aussi.
Et tout de suite après la pause, chers auditeurs, là, restez là parce que je vais vous parler, puis je suis certain que pour plusieurs d'entre vous, ça va être une nouvelle. Je vais vous parler de l'existence d'un fonds qui vise à nous indemniser comme voyageurs. Quand on vit des pépins comme voyageurs, vous allez voir, il y a des conditions à remplir, mais par moment, on peut recevoir une espèce de compensation qui va nous indemniser pour les dommages matériels qu'on a subis. Dans un instant, là.
98.5 Circulation.